France Culture, la nuit, un patrimoine radiophonique. La passion de la mer, ou plus précisément, plus exclusivement, la passion du bateau. Le goût de l'aventure des natifs de Nantes, l'attirance pour les voyages au long cours entrepris sur la trace des explorateurs du XVIIIe siècle. L'amour de la vie à grignoter, plus qu'à dévorer. Paul Guimard, en mars 1974, à l'occasion de la sortie de la Constance, était l'invité de Patrice Galbeau pour La vie entre les lignes. Voici les deux derniers épisodes de cette série.
Si je vous dis, Paul Guimard, que vous êtes un aventurier, je ne pense pas que vous m'en voudrez, ni que vous le prendrez mal. Je pense plutôt que vous le prendrez bien, car vous avez toujours, heureusement, une vie aventureuse. Une vie itinérante et passionnante, évidemment, il faut bien le dire. Et au cours de cette vie, vous avez dû rencontrer des gens tout à fait extraordinaires, des gens exotiques, disons.
Il y a un type, tenez, qui doit être mort maintenant, qui s'était réfugié vers 1950, peut-être, oui, 48-50, dans les Galapagos, qui était à ce moment-là vraiment un endroit tellement en dehors des lignes régulières de navigation, avec des mouillages tellement incertains que c'était le bout du monde. Enfin, c'était une des réalités physiques du bout du monde. Ce type était un juif alsacien qui avait fui l'Allemagne au moment des persécutions anti-juives. Et puis ça avait dû lui porter au cerveau, comme on dit. Et il avait construit dans cette île des Galapagos, qui est quand même une sorte de paradis, bon, parce que c'est sous l'équateur, mais il y a le courant de Humboldt, qui est un courant frais, qui amène des maquereaux, une fraîcheur la nuit exquise, enfin, c'est un endroit fascinant. Il était tout seul. Il avait reconstruit un camp de concentration. C'est-à-dire qu'il avait tendu des barbelés, construit un mirador et dicté des règles. Et tous les matins, il faisait sa patrouille, il montait en haut du mirador, il relisait les règles édictées, sera puni de mort celui qui patati patata. Et il a vécu comme ça des années, en étant à la fois le prisonnier et le geôlier de son fantasme. C'est extraordinaire, non?
Oui, c'est singulier.
Oui.
Vous l'avez connu en quelle année?
Vers 1960, je crois, quelque chose comme ça, oui. Bon, enfin, c'est à peu près contemporain quand même, je veux dire, ouais. ça remonte pas à la conquête des Indes, hein. Seulement, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour rencontrer des hommes tout à fait extraordinaires. Vous savez, moi, je vis beaucoup en Bretagne, et quand je suis en Bretagne, je vis essentiellement avec des marins-pêcheurs. Eh bien, vous rencontreriez sur les quais de Concarneau ou d'ailleurs, très facilement, 150 hommes les plus extraordinaires que vous n'ayez jamais rencontrés. Et ça s'aperçoit à des petits signes de pas grand-chose. J'ai un ami, par exemple, qui est en retraite maintenant, qui mange ses invalides, comme on dit dans le quartier. Il s'appelle Yves Volant, il habite à Saint-Philibert, dans le sud du Finistère. Et il a fait pendant un certain temps les campagnes de morue sur les bancs de Terre-Neuve, à une époque où c'était pas de la tarte. Il fallait vraiment partir longtemps. le confort c'était zéro, le travail c'était monstrueux, purement monstrueux, puisque le rythme de travail c'était 12 heures de travail, 6 heures de repos, le tout pendant 7 mois. C'est-à-dire que vous travailliez 12 heures, vous aviez 6 heures pour vous laver, manger, dormir, et encore quand il faisait beau. Bon, c'est un métier dans lequel les hommes vieillissaient en un temps record. Bon, un jour il m'a raconté un coup de chien qu'ils ont eu, parce qu'on ne dit jamais une tempête bien entendu, chez eux. On dit simplement qu'il faisait vraiment mauvais temps. Et quand on dit faisait vraiment mauvais temps, il est à peu près inimaginable de se représenter la réalité de ce mauvais temps-là. Et le patron de ce morutier, qui était un homme sans tendresse excessive, comme ils étaient tous, avait voulu tenir jusqu'au bout son chalut dehors. Or, l'un des gros orins de fer qui rejoignent le bout du chalut avait cassé. Ce qui fait que le bateau était en travers dans le mauvais temps, avec un chalut de je ne sais pas combien de dizaines de tonnes qui traînait au derrière au risque de se foutre dans l'hélice, et auquel cas, bon, le bateau s'était terminé. Et surtout, tous les agrès volants de cette pièce cassée qui balayaient le pont. Or, une poulie, vous savez, ça pèse 300 kilos. Quand un bateau va bord sur bord, 300 kilos qui balayent le pont, ça vous prend 10 hommes et ça en fait de la bouillie. Et pendant toute la nuit, ils ont lutté pour remonter ce chalut. Et les hommes ont commencé à grogner d'abord parce qu'ils étaient épuisés, puis parce qu'ils voyaient bien qu'ils risquaient leur vie. Alors qu'il y avait une chose très simple à faire. Il fallait couper l'autre cordage. Ouais. Et puis bon, le chalut s'en allait à la flotte et le bateau était sauvé. Et le lendemain matin, cet ami est allé voir le patron du bateau. Il lui a dit, je comprends pas. Je comprends pas, les hommes comprennent pas non plus, ils étaient seconds sur ce bateau. Pourquoi on n'a pas coupé ? Et le patron lui a répondu, chez moi, largué du matériel, la mode n'est pas encore venue. Eh ben bon, c'est une histoire entre 150 000, mais vous me demandez des gens extraordinaires. Ça, ce sont des gens extraordinaires.
Le contraste est brutal entre la situation périlleuse de la Constance et l'ambiance haute en couleur et en bruit de la fête des filets bleus à Concarneau. Et ce contraste illustre précisément l'un des aspects les plus dramatiques de la vie familiale des marins-pêcheurs, l'ignorance du sort des autres. De même, Keeve n'a rien su de l'opération de son fils, de même, les familles de l'équipage en danger de mort ne participent aucunement à ce qui risque d'être une tragédie. Par la force des choses, elles vivent à contresens et à contre-temps. À Concarneau, donc, c'est le défilé folklorique de la fête des filets bleus. Au pied de l'estrade sur laquelle se disputent les concours de danse, Arlette, Antoine et Anne. Un groupe de garçons commente en breton les charmes d'Arlette que sa tenue ne dissimule guère. C'est la franche rigolade.
Non, dit yoga, guerre à plat.
Qu'est-ce qu'ils disent ?
Ce que disent tous les garçons à propos des filles.
À mon avis, il faut un cours d'anatomie.
La prochaine fois, je me déguiserai en bigoudaine. Oh. On va rester debout longtemps.
Et tu t'ennuies pour changer.
Oh, bon, moi, tu sais, le genre troulala et tout. Bon, je vais manger une crêpe histoire de faire couleur locale. Eh, ne vous en allez pas, hein, je reviens tout de suite.
Non, c'est la sortie de son pari. Et vous, Anne, vous vous sentez réellement bretonne ?
Pourquoi ?
Il y a des moments où vous semblez très loin de... Enfin, comment dire ?
Du tralala et tout.
Oui, enfin, tout ce folklore. Et puis, à d'autres moments, vous êtes terriblement d'ici.
Vous savez, les Bretons sont des gens bizarres. Regardez les coiffes. Il y en avait une par paroisse. Personne ne voulait ressembler à son voisin. Mais même la langue. Entre la cornouaille et le léon, c'est à peine si les gens se comprennent aujourd'hui. Mais malgré ça, ils appartiennent beaucoup plus au même pays que s'ils portaient un uniforme. Pour moi, c'est un peu la même chose. En costume régional, j'aurais l'impression d'être déguisée, comme dit Arlette. Mais il suffit que je m'éloigne un peu d'ici, à Paris, tenez, sans aller plus loin, je me sens bretonne des pieds à la tête. Je sais pas comment vous expliquer.
Ah, vous n'expliquez pas mal du tout.
Il y en a qui quittent leur pays par la force des choses, mais au fond, ils restent enracinés.
Malgré tout, un breton... Enfin, disons une bretonne d'une vingtaine d'années, d'environ 1m70, avec des cheveux blonds, des yeux bleus. En prenant beaucoup de précautions, on devrait pouvoir la transplanter, non?
La Constance poursuit sa pêche. À quelque distance, un autre chalutier. Il marche à pleine vitesse. Jean prend ses jumelles et voit le patron du vaillant couturier qui, lui aussi, l'observe à la jumelle et lui fait des signes. Jean répond de la même façon, puis va à la radio.
Allô ? Allô ? Le vaillant couturier ? Tu m'entends ?
Allô, Jean ? Je t'entends. Je t'entends très bien. À toi.
Route de retour, on dirait. Ça a donné pour toi? J'écoute.
Route de retour, oui. On sera demain matin à la maison. Pour la pêche, on peut pas se plaindre. 500 caisses, on a. Mais dis donc, je regardais sur ton gaillard. Une drôle de pêche que t'as faite, on dirait. J'écoute.
Ça, oui, une drôle de pêche. La poisse, quoi.
Ouais, la poisse. C'est pas bien intéressant d'avoir une mine à bord. Oui, oui, oui. Pourtant, ça arrive plus tellement souvent.
Suffit d'une fois. C'est sur nous que c'est tombé. On remarque à marée comme elle est, il n'y a pas grand-chose à craindre. Surtout avec le beau temps. J'écoute.
Oui, si on veut. Les Anglais disent qu'ils ont de la brise par chez eux. Ça veut pas dire que ça viendra sur nous, mais enfin... Moi, je traînerai pas trop quand même. J'écoute.
Dans deux jours, on a fini. Route sur Concarneau. Hé, nous casse pas le marché avec tout ton poisson. J'écoute.
Il restera bien un ou deux marailleurs pour toi. Allez, Canavo. Mais fais attention à toi.
Canavo, terminé.
Yves!
Ouais!
Bien, il y a une minute.
Qu'est-ce qui se passe?
Le vaillant couturier dit que les Anglais ont du vent. Et des fois que ça viendrait par ici, avec notre mine à bord, ça risque de chahuter ferme.
J'y pensais. Je me demandais. Je réfléchissais.
Dis.
Il y a bien des zones de rochers où aucun bateau peut chahuter.
Forcément.
Ben pourquoi pas y aller? Et larguer cette saloperie.
Oh, j'avais pensé moi aussi. Mais c'est pas parce qu'on la larguera dans un endroit qu'elle y restera. C'est avec les courants, faut savoir. Et chaque fois qu'il y a un coup de temps, ça bouge au fond, les épaves se promènent. On en remarque bien, je pense comme toi. Il y a une chance sur 1 million pour que d'autres la repêchent. Seulement supposons qu'on fasse ça, hein. Et puis dans 6 mois, dans 2 ans, tout ce que tu voudras, on apprend qu'un bateau a sauté. Bon, ça arrive moins souvent que juste après la guerre, mais ça arrive. Alors on ne saura jamais si c'est notre faute ou pas. Et c'est ça, on ne pourra jamais savoir. Avec les deuils que ça fera dans le pays, ce serait pas commode pour nous d'aller se promener sur le port.
Ouais, t'as raison. Pas commode du tout.
Dans sa cuisine, la mère Guillou prépare son dîner. Sur la grande table, le nid couvert d'une impression de solitude tragique.
Entrez. Ah, c'est toi, Anne. Entre, ma fille.
Je passais à vous dire bonsoir.
Assieds-toi donc. Si tu veux rester manger un morceau, le père Godard m'a envoyé une quatrième. Le poisson donne bien à la côte.
Je vous remercie, mais je dîne chez Marie-Josée.
Ah, il y a longtemps qu'on ne t'a pas vue.
Oui, c'est pour ça que je viens.
Je ne te fais pas de reproches, tu es libre.
Mais non, vous savez bien que je ne suis pas libre. J'aime Jean. Mais je ne savais pas comment vous expliquer des choses.
Maintenant, tu sais.
Non, mais je voulais vous parler.
À moi, tu n'as rien à expliquer. Mais à Jean, il faut le faire, si c'est ton idée. Hein.
Je sais même plus ce que je pense. Je voudrais que vous m'aidiez. Je m'y retrouve plus. Est-ce que vous me comprenez?
Pour comprendre, oui. Ça, je comprends. Mais pour t'aider...
Mais j'ai 20 ans. Je vous regarde, Marie-Josée, et vous, toute seule, toujours, à attendre. Mais est-ce qu'à 20 ans, on peut choisir ça? Est-ce que c'est juste? Mais enfin, dites quelque chose. Tous les jours, pendant toute une vie.
Oui, oui, ça fait long.
Puis un jour, on s'aperçoit qu'on est vieille.
C'est vite fait.
Alors?
Alors rien. Je ne peux pas t'aider. Il faut que tu décides toute seule. Personne ne peut t'aider, ni maintenant, ni après. Comme tu décideras, je comprendrai. De toute façon, je n'aurai pas de mauvaise idée sur toi. Pour Jean, je veux te dire... Enfin, c'est pas parce qu'il est mon garçon, mais... C'est un homme qui mérite. Seulement, je sais. C'est dur d'être seul. C'est dur d'attendre. Attendre.
Le lendemain matin, sur le port de Concarneau, c'est la vente à la criée. Deux marins discutent. L'un d'eux est le patron du chalutier Vaillant Couturier qui a croisé la Constance. L'autre, c'est l'armateur qui a vendu la Constance à Jean.
Quand j'ai vu la mine dans mes jumelles, j'ai appelé Jean à la radio. Il était bien emmerdé.
Hein. Qu'est-ce qu'il a dit?
Qu'il finissait sa pêche en vitesse avant de rentrer.
Non, mais il a intérêt. Tu as vu le baromètre depuis ce matin?
Lui aussi, il a dû le voir. À mon avis, il rentrera demain.
Il rentrera quand il ne pourra plus mettre une sardine dans sa cale à poisson. Avec ce qu'il a à rembourser chez moi et au Crédit Maritime, moi j'attendrai bien, mais tu connais Jean.
Oh oui, oh, c'est pas quelqu'un à faire traîner ses dettes. En tous les cas, cette histoire de mine, moi on en causera.
Ouais, bah, compte là-dessus. Aux parlottes à la radio, tu crois que vous étiez tout seul sur la longueur d'onde? Si tu ne trouves un seul café sur le port où les gens ne sont pas au courant, ben tiens, t'as droit à une caisse de muscadet.
Pendant ce temps-là, la Constance taille sa route à belle allure. La mer est creuse, mais reste maniable. Le vent siffle dans les gréements. Les mouvements du bateau accusent la situation très vulnérable de la mine.
Ça fraîchit vite.
Ouais. La radio a donné avis d'un coup de vent.
À voir le baromètre, rien de drôle.
40 à 50 nœuds.
Oh là. Et d'où?
Secteur Est.
Merde, en plein de boue.
Eh oui, en plein.
On aura le temps de rentrer.
Donc de justesse, hein. Si la dépression ne vient pas trop vite sur nous. Et si le vent veut rester dans le sud jusqu'à demain?
Ouais, avec des scies. Eh ben, si tu veux mon avis.
Non, mais pas la peine, j'ai le même. Mais pendant qu'on y est, on va hisser le pavillon explosif à bord. On ne risque plus rien à être en règle.
Plus tard, la lumière a baissé. Yves est à la barre. En dehors, c'est le vrai coup de mauvais temps, la symphonie furieuse de la mer et du vent. Le bateau peine beaucoup. Un paquet de mer terrible recouvre. D'un coup, le gaillard d'avant.
Jean! Jean!
Oui!
On peut plus continuer à faire tête! On va tout casser!
En réduisant encore un peu!
J'ai réduit autant que j'ai pu! On fait pas de nœuds! C'est déjà dangereux pour tenir le bateau à son cap!
On se met en panne! On attendra que ça passe! Je vais appeler la radio!
Allô, la Constance.
Route de retour. Mauvais temps. Tout va très bien à bord. Je répète, route de retour, mauvais temps. Tout va très bien à bord.
J'aurais bien comme son père. Ça voudrait mentir, mais ça ne sait pas. Rien que de l'entendre dans le poste, je sais quand il ne dit pas la vérité. Quand il dit tout va bien, c'est que c'est vrai. Mais quand il dit tout va très bien à bord, il ne faut pas en croire un mot. Le Conquet signale des rafales à 60 nœuds. Tous les bateaux sont en cap. Et eux, ils voudraient nous faire croire qu'ils sont tranquilles, en train de jouer aux cartes, peut-être.
La nuit va être longue pour eux.
Pour nous aussi.
Avec tout ça, le père Guillot a encore oublié de prendre ses gouttes.
C'est pourquoi ?
Pour les artères. Il a le sang trop fort. Et puis la sciatique. Il est bon, ton café ?
Ben, c'est un copain d'Yves qui en a ramené du Brésil quand il était allé pêcher la langouste.
On n'a plus qu'à attendre demain matin. Ils signaleront sûrement à quelle heure ils arrivent.
On pourrait regarder la télé. Ça nous changerait les idées. Puisque de toute façon, on ne peut rien faire.
Non, ce n'est pas le roman de l'échec que j'ai voulu écrire, contrairement à ce que beaucoup de critiques ont pensé. Ce n'est pas le roman de l'échec, car enfin, Béatrice n'a pas manqué sa vie avec Albert. Non, ce que j'ai voulu exprimer, c'est essentiellement la difficulté de la communication, qui est tout de même le thème essentiel de notre temps, n'est-ce pas ? En fait, Béatrice et Albert cherchent à se comprendre. Elle est parfaitement consciente que dans son métier de peintre, Albert poursuit en réalité une ascèse. Ce qu'il veut cerner, c'est la confection même de la peinture. Seulement, ils sont aliénés par la civilisation. C'est pourquoi je cite cette phrase de Jung qui est très éclairante. L'homme primitif était bien plus gouverné par ses instincts que ne l'est l'homme rationnel, son descendant, qui a appris à se contrôler. Dans le processus de civilisation, nous avons élevé une cloison toujours plus hermétique entre notre conscience et les couches instinctives.
Il n'y a rien de plus normal à entendre que toutes ces niaiseries.
Et nous l'avons même finalement coupé de la base somatique.
Il y a une chose que je trouve passionnante, je ne suis pas le seul, c'est de détecter les sources d'inspiration chez les écrivains. C'est d'ailleurs le but de cette série, La vie entre les lignes, d'aller à la recherche de ces sources. Et bien vous, Paul, qui êtes un écrivain voyageur, vous n'avez jamais rien écrit qui s'inspire des pays que vous avez traversés. Pourtant, Dieu sait que vous en avez traversé, vous en traversez toujours. Vous n'êtes pas comme Danielle Gray, par exemple, qui, elle aussi, voyage énormément et qui, de chaque pays où elle va, revient avec un roman. Un roman dont le lieu précis est justement le pays dans lequel elle a vécu pendant 3 semaines ou 1 mois.
Alors, oui, ça, j'admire cela, mais je ne l'envie pas pour la même raison que je ne pars jamais, où que ce soit, avec un appareil de photo. J'ai l'impression que si je me disais, en étant à Bangkok ou à Tahiti ou ailleurs, tiens, je vais en profiter pour accumuler des matériaux, enfin essayer d'écrire quelque chose là-dessus, ça me gâcherait absolument le voyage, de la même manière que ceux qui voyagent avec un appareil de photo voient le monde à travers leur viseur, c'est-à-dire cadré d'une manière différente de ce qu'il est, et qu'au fond, il ne ramène de l'univers que des instantanés. Moi, j'ai besoin d'être très longtemps quelque part pour envisager d'en parler, ou de connaître depuis très longtemps quelqu'un pour envisager d'en parler. Au fond, je m'aperçois que je ne suis pas du tout un reporter, si vous voulez.
Mais en ce moment précis, si vous voulez, votre activité principale, enfin, la plus contraignante, je veux dire, c'est peut-être cet éditorial que vous avez chaque semaine, qui est une chose quand même très importante.
Contraignant, oui et non. Si l'on réduit cet éditorial à ses vraies proportions, c'est 4 feuillets dactylographiés par semaine, ce qui est une rigolade, en fait. C'est un peu contraignant en ceci que ça vous oblige à ne pas vivre les yeux fermés et les oreilles bouchées, mais à vraiment regarder le monde qui est autour et à l'écouter, parce que il est bien certain qu'on ne peut pas décider un matin de se mettre devant son bureau et dire « Tiens, j'écris un éditorial ». Non, il faut avoir été relativement attentif à la marche des choses pour pouvoir en parler. Mais au fond, ça n'est pas non plus ni très compliqué, ni très contraignant, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on va dîner avec des copains ou quand on rentre le soir chez soi avec sa femme? On lui parle de la vie du monde.
On fait un éditorial
parlé. Et d'ailleurs, moi, je suis persuadé que la radio jouera un rôle énorme pour ce qui est de la culture de demain ou d'après-demain, parce que je crois que beaucoup d'individus sont les auteurs d'une œuvre parlée énorme, qui auparavant se dispersait dans le vent. Bon, c'était terminé. Il y a eu à tous les siècles des gens qui ont laissé une réputation considérable. On disait, c'est le plus bel esprit de ce temps. Ces gens-là n'écrivaient pas. Ils parlaient le soir à leurs amis ou l'après-midi dans les salons. Eh bien, maintenant, j'ai l'impression qu'avec la radio, une partie de cette matière perdue va demeurer. Si vous voulez, je ne veux pas faire de critique littéraire, ce n'est ni mon rôle ni mon goût, mais je suis persuadé qu'un homme comme Malraux a laissé autant dans ses entretiens enregistrés que dans son œuvre écrite. Je suis persuadé que Prévert a prononcé plus de poèmes qu'il n'en a écrit. Donc, si vous voulez, moi je considère en tout cas qu'un éditorial n'est jamais que la poursuite d'une conversation par d'autres moyens, comme aurait dit Clausewitz à propos d'autre chose d'ailleurs.
Ce que vous dites me fait penser à ce que dit Jean-Louis Barrault, avec qui je travaille beaucoup en ce moment, et lui, un de ses rêves serait chaque semaine de se réunir avec 3 ou 4 gens comme vous, qui pensent comme vous, à la radio, et de parler de tout ce qui les a frappés dans la semaine. Et il dit qu'on aurait une espèce de pièce de théâtre basée sur l'actualité.
Je crois qu'il a tout à fait raison, et je crois qu'on aurait surtout une vision de la société et du monde absolument irremplaçable, parce que il se passe ceci actuellement. Les gens n'écrivent plus, j'entends des lettres. C'est un genre littéraire qui a été, Dieu sait, éminent en France. Et qui est ?
Les gens téléphonent.
Perdu. Les gens téléphonent ou les gens dînent ou déjeunent ou se voient, enfin font des surprises parties ou je ne sais trop quoi. Et au cours de tous ces événements, ou familiaux ou mondains, ils racontent leur vie. Auparavant, ils prenaient une feuille de papier et une plume d'oie. Enfin bon, c'était Voltaire qui écrivait autre chose aussi, mais qui écrivait une quantité de lettres fantastiques. Et ce qui reste de ça, c'est vraiment le portrait de son époque. On ne le fait plus maintenant. Alors, je trouve que Jean-Louis Barrault aurait raison de faire ça, parce que ce serait... D'abord, ça pourrait être intéressant, ce qui n'est pas plus mal. Et puis, ce serait en tout cas un document, ça c'est sûr.
Thank you.
Il y avait autrefois, ça existe peut-être toujours, une rubrique dans une revue, en sélection, qui s'appelait, je crois, l'homme le plus extraordinaire. Alors on demandait chaque semaine à des personnalités de parler de l'homme ou de la femme, éventuellement d'ailleurs, je crois, le plus extraordinaire qu'ils avaient rencontré. Alors je pense que vous, Paul Guimard, Dieu sait si vous avez voyagé, même sans voyager on peut rencontrer des gens extraordinaires, mais vous avez connu beaucoup de gens, et vous en connaissez encore. Je vais vous demander quelques noms qui vous ont particulièrement frappé, quelques personnalités célèbres ou pas d'ailleurs.
Ce sera forcément une liste incomplète parce qu'effectivement, quand on bouge beaucoup, ce qui est mon cas, on rencontre beaucoup de monde. Et quand on est curieux de ce qu'il y a autour de soi, même si on ne bouge pas, on en rencontre aussi beaucoup. Alors effectivement, mon métier fait que j'ai rencontré des gens qui sont extraordinaires et célèbres, mais aussi d'autres qui sont tout à fait inconnus et qui sont tout à fait extraordinaires. Alors, ça n'est pas très facile de dresser une liste, mais si vous voulez, parmi les gens très connus, il y a un homme qui m'a toujours fait beaucoup d'impression, parce que je crois que ça n'est plus un homme de ce temps, c'est Henri de Montfred. Alors là, on rejoint bien entendu un peu la mer, qui est une de mes préoccupations, puisqu'une de ses, enfin une grande partie de ses aventures, d'abord des aventures marines, mais ce n'est pas uniquement pour ça, je crois. Henri de Montfred est, à mon goût et à mon sens, un véritable aventurier, parce que tous les aventuriers, que je connais en tout cas, sont des gens qui étaient mus par un sentiment élémentaire et simple. En ce qui concernait Montfred, c'était la puissance et l'argent. Il a réalisé les deux. Je me souviens que Joseph Kessel, qui est un ami très cher et qui est lui aussi, Dieu sait, un homme tout à fait extraordinaire, m'a raconté une de ses sa première entrevue même, je crois, avec Montfred. Il avait été chargé par son journal de faire un reportage dans une partie de l'Arabie qui était totalement impénétrable. Il y avait des recommandations politiques auprès de tous les représentants de la France dans ces pays-là qui lui avaient dit, écoutez, monsieur Kessel, tout ça est bien joli, seulement pour aller où vous voulez, il faudrait qu'on vous donne un escadron fortement armé, avec probablement un appui d'artillerie un peu important, et on n'a pas le monde sous la main. Or, Kessel avait une recommandation pour Montfred, qu'il n'avait encore jamais vu. Il est allé le trouver, et Montfred lui a fait, si j'ai bonne mémoire, sur un petit bout de papier, rien du tout, une phrase en arabe, avec son nom arabe. Et puis elle lui dit, voilà, avec ça, vous irez où vous voudrez. Et Kessel m'a dit, je suis allé où j'ai voulu.
C'est une signature parce que, qui a remplacé les escadrons.
C'est ça, oui, parce que Montfred avait mené pour son compte personnel et, encore une fois, avec vraiment la mentalité d'un homme du XVIIIe siècle. Montfred n'a pas fait que des choses respectables. Toutes les sortes de trafics possibles et imaginables, il les a fait. Et il le dit d'ailleurs. Il a toujours considéré l'esclavage comme une chose normale, le trafic d'armes, ça allait de soi, le hashish, pourquoi pas. Mais il est ému par cette espèce de désir beaucoup plus fort que lui d'avoir une puissance dans l'espace, c'est-à-dire d'avoir un territoire où il était le patron. Et il l'a été. Et d'avoir cette espèce de puissance beaucoup plus diffuse, mais importante, on le sait bien les uns et les autres, que donne l'argent. Or moi j'ai connu Montfred à un âge déjà avancé. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un de cet âge ayant à ce point l'énergie absolument farouche et intacte de ses 22 ans. J'ai l'impression que Montfred mourra à 30 ans. Il n'aura pas été entamé par quoi que ce soit, ni par les idées. Car encore une fois, il a des idées d'un autre âge et il s'y tient avec une rigueur absolument répréhensible. Enfin, ni du point de vue des idées. Du point de vue physique, il ne sauterait plus sur un zarou que pour hisser la voile en vitesse pour éviter de se faire harponner par une canonnière anglaise. parce qu'il est très âgé, il a plus de 90 ans. Mais même physiquement, et même en tenant compte de ce handicap qui est réel, c'est un homme qui n'a jamais baissé les bras, et j'ai l'impression qu'il mourra sans les baisser. Alors quand vous me dites « l'homme le plus extraordinaire », sont des hommes comme ça, moi, qui m'étonnent, qui ne se laissent pas entamer par leur environnement, ni par les courants de mode, même quand ils sont très longs, vous savez, avoir 92 ou 93 ans aujourd'hui, ça en fait des révolutions de pensée qu'on a traversées et tout ça. Lui a pas bougé. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. Ça aussi, c'est un des problèmes que ni Kessel ni Monfrel ne se poseraient. Bien ou mal, ça n'existe pas beaucoup pour eux. Ils ont une espèce de hiérarchie, d'échelle de valeur, qui est un peu anachronique parce qu'elle est apolitique, elle est dégagée au sens ancien du mot, mais ils n'aiment ni la médiocrité, ni la lâcheté, ni la faiblesse, ni tous ces petits travers vers lesquels nous sommes engagés par la mécanique des choses. Ce sont des êtres extraordinaires au sens propre du mot, si vous voulez.
Sans compromission, si je pense.
Sans compromission par rapport à eux-mêmes. Monfred a dû avoir, enfin je ne connais pas les détails de sa vie, quoique nous avons tellement parlé ensemble, j'ai l'impression de connaître sa vie et ses livres par cœur. Mais vis-à-vis des lois, oui, il a dû avoir des compromissions, des arrangements, des choses comme ça. Vis-à-vis de lui-même, je ne pense pas qu'il en ait eu beaucoup, non.
Dans la nuit et la tempête, la Constance se bat contre le vent. Le pont est balayé. Dans le poste, les hommes sont sur leur couchette. Tout bouge, tout danse. Jusque dans le repos, les muscles doivent travailler à maintenir le corps en équilibre. Au reste, l'équipage ne dort pas vraiment. Beaucoup ont les yeux grands ouverts. Les visages sales et barbus sont marqués par la fatigue. Seul, le mousse, dans sa couchette, dort profondément. À la table, Jean et son père.
Jean, qu'est-ce qu'ils disent, la météo ?
Pas grand-chose de neuf. Ça n'a pas l'air parti pour mollir.
Ah non ?
Non, je viens d'entendre dans le poste un Allemand, un petit cargo qui est emmerdé avec son gouvernail. Il demande un remorqueur à Brest.
Ah. De ce temps-là, il a intérêt à ne pas se laisser engager dans le frondeur. Un remorqueur dans les cailloux de Molène, ça serait du sport. Dis-moi, et la mine ?
La mine, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Ah. Elle est à poste et saisie comme elle est, elle risque pas d'aller se promener. Bon. D'ailleurs, je viens de regarder son amarrage. Alors, ce qu'il faudrait pas, évidemment, c'est que quelque chose lui tombe dessus.
Ah oui, parce qu'alors là, adieu Berthe. Car en 48, en 49... Avec mon taunier. On est resté 8 jours en cap dans le golfe de Gascogne.
8 jours ?
Oui. Mais c'est rare quand même.
Si le vent tombait dans le sud, on pourrait essayer de remettre en route tout doucement. Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est une poulie qui s'est détachée! Si elle tape la mine, on est foutu!
Faut l'attraper!
Mais pas le con! Si tu te fais sur le trajet, ça t'emporte la tête comme un œuf!
Mais si on fait rien, on saute tous en l'air!
L'attraper la main, c'est pas possible! Elle te crassera en deux!
Non, mais passe-moi un filin! Costaud! Pour s'en sortir, faut la prendre en lasso!
Laisse-moi faire, Jean! Je suis pas plus maladroit qu'un autre! J'ai moins à perdre que toi!
Impossible, mais c'est moi qui commande!
La poulie se balance follement au bout de son filin. Elle heurte au hasard les haubans, les fermes, le balcon. Dans sa course, elle passe à quelques centimètres de la mine. Jean profite d'un mouvement du pendule pour bondir à l'avant. Il se couche, pour laisser passer au-dessus de lui la poulie folle. En profitant des quelques secondes de répit entre deux passages, il amarre l'un des bouts de son cordage au-dessus du pont. Puis, toujours en se courbant lorsqu'il est menacé d'être fauché par la poulie, il se recule en déroulant son cordage. Tout cela est interminable, angoissant. Enfin, à l'instant où la poulie amorce son mouvement vers lui, il se dresse et raidit son cordage qu'il tendit parallèlement au pont, barre la trajectoire du pendule. La poulie vient frapper contre l'obstacle autour duquel elle s'enroule. Le choc ébranle Jean, mais il tient bon. Revient vivement vers le mât en tirant à lui la poulie prisonnière que son père et Yves amarrent solidement contre le mât. Les trois hommes se regardent. Jean a les mains en sang. Le cordage lui a arraché la peau.
Je vais te dire une chose, Jean. Aujourd'hui, tu as passé ton brevet de patron. Allez, va te verser du rhum sur les mains. C'est le meilleur remède.
Oh, c'est pas grave. Rien de cassé, c'est le principal.
Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Faire route sur Concarneau, faut pas y penser. Mais on devrait aller se ramasser au Guilvinec, en allant doucement.
Ouais, on a fait une connerie, c'est de mettre la mine à l'avant. À l'arrière, elle était mieux protégée.
Il aurait fallu la transporter à la main, et c'était dangereux aussi. D'une façon comme d'une autre, il est plus temps de la changer de place.
Bon, ben on y va.
Route au 310. En avant doucement, on va bien voir. Yves, tu prends le premier carré. Ouais, dans d'accord. 2 heures, le père viendra te relever. Si tu arrives à tenir ce cap-là, on rentre tout droit sur Guilvinec.
Ils doivent se faire des cheveux blancs, la maison.
Oh, je vais passer un message qu'on est en train de rentrer sur le Guilvinec. Pas la peine qu'elle nous attende à Concarneau.
Sur la côte, dans une station de radio militaire, un opérateur est en liaison avec la Constance. Un officier de marine est debout près de lui.
Oui, oui, je vous reçois 5 sur 5. Pouvez-vous me donner votre position exacte? J'écoute. Oui, bien compris. Quelle route faites-vous? Je répète, quelle route faites-vous? J'écoute. Je transmets. Gardez l'écoute. Ils vont essayer de rentrer au Guilvinec.
Ah, ça ne m'arrange pas du tout. Demandez-leur pourquoi ils ne vont pas au Audierne. J'ai une équipe de déminage sur place.
Allô, la Constance? Pouvez-vous faire route sur Audierne? Je répète, pouvez-vous faire route sur Audierne? À vous. Bien compris, je transmets. Gardez l'écoute. Ils disent qu'ils ont du poisson à bord. Ils aiment mieux vendre au Guilvinec.
Cela avec leur poisson. Passez-le-moi. Allô? Bon, entendu pour le Guilvinec. Passez-nous un message quand vous serez à 10 000. Et restez en rade jusqu'à ce qu'on vous envoie quelqu'un pour vous indiquer un mouillage. On vous débarrassera de votre colis, après vous pourrez vous occuper de vos merluchons. À vous! Et reprenez-les.
Vous avez un message pour vos familles? Passez-le-moi. Pas se faire d'inquiétude. En bonne santé. Comment dites-vous? Bon quoi? Ah, bon baiser, d'accord. Anne, le prénom féminin. Soyez tranquille, je ferai transmettre par la poste. De rien, c'est normal. À plus tard, bonne continuation. Terminé.
Avec 500 kilos d'explosifs à bord et 60 nœuds de vent, ils trouvent encore moyen de penser à leur langoustine.
Allô? Allô? Donnez-moi la cabine de Concarneau. Oui, c'est pour dicter un télégramme. Pas secret d'inquiétude.
Quand la Constance approche enfin du port de Guilvinec, un petit bâtiment va vers elle et fait signe qu'on le suive. Les deux bateaux gagnent un endroit de la rade à l'écart de tout trafic. Deux hommes passent à bord de la Constance, un officier et un spécialiste du déminage. L'officier rejoint Jean sur la passerelle.
Premièrement, je tiens à vous dire que vous avez fait une belle connerie. Et deuxièmement, on va essayer de vous arranger ça. Où est-elle, cette mine ?
Par ici, sur le gaillard avant.
Oui.
Eh ben, c'est pas le modèle de poche, hein.
Vous croyez qu'elle peut encore exploser ?
En principe, c'est étudié pour. On va la désamorcer.
Ça vous arrive souvent de faire ce travail ?
Encore assez, oui.
C'est un modèle que vous connaissez bien ?
En principe, c'est pas un métier où l'on bricole au pifomètre. Vous en faites donc pas, je vais pas le faire sauter, votre FIO. Et taisez-vous une minute. Hein. C'est le moment délicat. Voilà. Celle-là ne fera plus de mal à personne. On va la couler ici, là, avec une bouée, puis demain matin, les hommes grenouilles viendront la faire sauter.
Bon, merci bien.
À la prochaine, hein.
La prochaine fois.
Oui.
J'espère que vous sauterez avec. Ça nous évitera une corvée. Ah tiens, si vous voulez voir le feu d'artifice, rendez-vous demain matin.
Ah, et ben voilà, vous vous en souviendrez de votre partie de pêche, hein.
Adieu. Au revoir.
Au revoir. Merci. Au revoir.
Bon. Eh ben, vous deux, vous allez au lit de bonne heure.
Demain, je vais faire une petite révision. Avec le mauvais temps, les fils s'encrasent beaucoup plus vite.
Ben, comme ça, on pourrait repartir après-demain matin.
Oui.
Le lendemain matin, il y a du monde sur le port pour voir exploser la mine au large. Près de la bouée qui marque l'endroit où on l'a immergée, le bateau de la marine patrouille. L'officier et le spécialiste du déminage scrutent la surface où crèvent des bulles d'air. Bientôt, deux hommes grenouilles apparaissent et se hissent à bord. Le bateau s'éloigne de la bouée et revient vers le quai où sont groupés Jean, Yves, le père Guillou, Anne et Marie-Josée. L'officier les rejoint.
On va faire exploser du plastique contre la sphère. Si elle doit sauter, elle sautera. Dans moins d'une minute, on sera fixé.
Elle est restée dans l'eau trop longtemps, tout doit être noyé à l'intérieur. Enfin, à mon avis.
En tout cas, elle nous aura fait du souci.
Attention.
Mon Dieu.
On peut dire qu'on s'est pas emmerdé pour rien.
Ah ça, vous n'auriez pas eu le temps de vous en apercevoir.
Jean ?
Oui ?
Je t'aime, tu sais. J'ai essayé de me dépendre de toi. J'ai fait ce que j'ai pu. Et puis voilà.
Tu es sûr ?
Je suis sûre d'une chose. On ne sera pas souvent ensemble. Mais dans ces moments-là, je veux dire, ce ne sera jamais une habitude.
Tu sais, quand le bateau sera fini de payer, je peux mettre un patron dessus. Puis moi,
Non, Jean.
Non. Peut-être que tu as raison.
Oui.
Mais c'est maintenant qu'il faut décider. Après, si tu changeais d'avis, ce serait trop dur pour moi. Est-ce que tu es prête à tout ça ?
Oui.
Quelques jours plus tard, c'est le grand exode de fin août. Les touristes quittent la Bretagne. Les gares sont prises d'assaut, les routes sont saturées, les filets à crevettes brinquent-balles sur les toits des voitures. Les vieux paysans, sur le pas de leur porte, assis sur des filets comme au carnaval ou à la bataille de la Marne. Dans sa chambre, Arlette cherche à faire entrer deux robes de cocktail, qu'évidemment elle n'a jamais mises, dans une valise déjà bourrée. Elle y parvient enfin, ferme sa valise en s'asseyant dessus.
Antoine, tu veux descendre ma valise? Elle est trop lourde pour moi. Antoine! Mais tu pourrais me répondre quand même. Oh, bah t'es sourd?
Qu'est-ce que tu fabriques là, plantée devant la fenêtre comme une âme en peine?
La barbe.
Dis donc, toi, tu ne vas pas me faire une crise de mélancolie?
Fous-moi la paix, tu veux?
C'était sérieux, alors? Oh, écoute, ta Pimpolaise, c'est une fille pas mal, d'accord? Elle est pas con et elle fait bien dans le paysage. Mais à Paris, sérieusement, tu la vois venue fauche aux soirées de Marie-Christine?
Elle vaut une douzaine de Marie-Christine.
On n'empêche qu'elle fera un peu folklorique. Allez, mets ça de côté avec les souvenirs de vacances. Au moins, je te préviens que l'année prochaine, je vais à Saint-Tropez. Et tu viens?
La Bretagne a repris son véritable visage. Le pays s'est démaquillé. On a démonté les crêperies improvisées, les terrasses provisoires, les inventaires de souvenirs. Sur la plage, les cabines de bain sont fermées. La plage elle-même est vide. Le vent porte les derniers papiers gras. La place du village redevient ce qu'elle est, une place de village. Le petit crachin de septembre tombe. Dans sa boutique, l'épicière range les invendus des vacances qui vont se faner en attendant l'été prochain. Chez la mère Guillou, trois couverts sont mis sur la table.
Mon frère va vous envoyer le cidre la semaine prochaine avec son tracteur.
Ça marche à la ferme?
Oh, toujours pareil. La belle-sœur commence à être fatiguée.
C'est vrai que c'est pour bientôt?
Vers la Toussaint, à peu près.
Tu as entendu la météo, Anne?
Oui, ils disent que l'hiver va être rude. Pour demain, temps médiocre, un peu de vent, de la pluie.
Enfin, c'est pas du mauvais temps.
Non.
Dis-moi, Anne, tu me connais. Quand j'ai dit quelque chose, je ne change pas d'avis comme de chemise. Mon terrain, je ne le vendrai pas. Mais puisque vous allez vous marier, Jean et toi, je mets le terrain dans ta corbeille. Il sera à toi. Tu feras comme tu voudras.
Oh.
Non, 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 tais-toi, ma fille. Allons, à table.
C'était le dernier épisode de La Constance, ce livre, Paul Guimard, que vous avez écrit en hommage aux marins-pêcheurs. Vous êtes breton, je le rappelle. Vous allez souvent en Bretagne, chaque fois que vous y allez. Vous vivez de très près avec les marins-pêcheurs. Vous avez beaucoup d'amis parmi eux, certains qui sont maintenant à la retraite, et qui ont vécu l'aventure extraordinaire, fascinante, mais épuisante de Terre-Neuve. À une époque où, comme vous le dites, ce n'était pas de la tarte. C'est-à-dire qu'il y avait un rythme de travail absolument hallucinant, monstrueux. Ce rythme de travail, c'était 12 heures de travail, 6 heures de repos, et on recommençait le tout pendant 7 mois. C'est-à-dire qu'ils travaillaient 12 heures, ils avaient 6 heures pour se laver, manger, dormir, et on recommençait. Évidemment, c'est un métier où on ne vivait pas très, très vieux. Je pense que c'est pour ces gens-là, pour laisser une trace de tout ce travail, de cette époque assez belle mais assez effarante tout de même, c'est pour eux que vous avez écrit La Constance.
J'ai beaucoup pensé à eux parce que j'ai beaucoup vécu avec eux, parce que j'avais bien envie que, aussi sommairement que ça puisse être dans le cadre d'une action un peu dramatique, un peu délayée, on témoigne un petit peu d'une sorte de pêche qui est en train, je crois, de disparaître, parce que les conditions de travail sont tout de même moins dures maintenant. Mais j'avais envie qu'il reste quelque chose de ce qui a été la vie quotidienne d'une partie importante de la Bretagne maritime, c'est-à-dire de l'Armor, c'est-à-dire des hommes qui partaient pour des marées qui duraient en général entre 15 et 18 jours, dans des mers extrêmement difficiles, enfin, les pires mers qui soient, où il fait très souvent mauvais temps, qui faisait un métier horriblement dur, puis qui revenait à terre, où il passait 36 heures, 36 heures pendant lesquelles il fallait décharger le bateau, refaire les vivres, un petit peu de propreté, rentrer chez soi, faire un enfant à sa femme, se raser, et puis repartir. Et ça durait comme ça, de l'âge de 14 ans, on embarquait comme mousse, à l'âge de 60 ans, on prenait sa retraite, quand on avait encore quelque chose à prendre.
Et on n'avait pas fait fortune, j'imagine.
On n'avait pas fait fortune du tout, non. On gagnait un tout petit peu plus d'argent qu'un manœuvre à terre. Seulement, on avait de soi une idée un peu haute. Plus noble, oui, un peu plus haute. Alors, bah oui, moi j'ai eu envie de... Enfin, témoigner, c'est un mot beaucoup trop pompeux. J'ai eu envie de dire pendant qu'on pouvait encore, pendant qu'il y avait encore des bateaux comme ça, pendant qu'il y avait encore des équipages comme ça, de dire ce qu'était la vie de ces gens-là, qu'on connaît aussi peu en France que la vie des Martiens, hein, parce que, les Français entretiennent de toute façon avec la mer des rapports essentiellement balnéaires. Enfin, alors bon, ils ont quelquefois été au bord d'un quai, puis ils ont dit, oh tiens, regarde le gros bateau, regarde le gros poisson. Mais ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que la vie d'un marin-pêcheur.
Et je pense que ce langage que vous avez employé est un langage authentique, parce que je me rappelle qu'un jour, un journaliste, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, m'avait parlé de ça. Et lui pensait que vous aviez créé ce langage, parce que c'est un langage qui devait être très loin de lui, effectivement. Il ne devait pas penser qu'on pouvait parler comme ça. J'ai l'impression que c'est tout à fait vrai.
Ça, vous savez, le problème était très simple. Encore une fois, je passe 5 mois par an là. De deux choses l'une, où je faisais parler les gens comme ils parlent vraiment, ou j'aurais déménagé parce qu'ils m'auraient foutu dehors. Or, j'aime bien habiter là, par conséquent, je les ai fait parler d'une façon qu'ils puissent accepter. Qu'ils ont tellement accepté d'ailleurs que... Que j'en ai eu de nombreux témoignages.
Puisque vous voyagez beaucoup, pas seulement en Bretagne, mais dans le monde, est-ce que vous avez dans votre cœur une deuxième patrie, un pays où vous dites que vous pourriez être heureux, ou plus qu'ici, ou autant ?
Heureux à moyen terme, c'est probable. Il y a beaucoup d'endroits qui sont très beaux, il y a beaucoup de races qui sont très séduisantes. Il y a beaucoup de choses à apprendre et à voir, mais je ne conçois pas d'être heureux, d'être chez moi, d'être bien, en dehors de la France, parce que je suis de culture française, et que l'idée d'être exilé sur ce plan-là me semblerait une disgrâce considérable. Et plus précisément, je ne serai certainement jamais complètement heureux coupé de la Bretagne, qui n'est pas la France comme on sait, qui est quelque chose de particulier, qui est une autre culture aussi, mais d'expression française, puis moi je suis du pays gallo, de toute façon je suis toujours parlé français, je parle pas pourtant, mais qui est un peu une autre façon d'être. Alors, ça aussi, ça ne se discute pas. Je crois que quand on a ses racines quelque part... On ne peut pas prospérer ailleurs, ou alors on est fait d'une autre sorte que moi. Moi, je suis de ces endroits-là, et je ne pourrais être bien que dans ces endroits-là, point final.
La vie entre les lignes, Patrice Galbeau s'entretenait avec Paul Guimard, auteur de La Constance, avec Gérard Lartigot, Yves Arcanel, Alexandre Rignot, Margot Lyon. Réalisation Evelyne Frémy. Cette série d'émissions a été diffusée pour la première fois sur France Culture en mars 1974.
Too decent to understand. For when I see him, he hypnotizes me. When he takes hold of me with his hot hand. Someday I know he's coming back to call me. He's gonna handle me and hold me so. It's gonna be like dying Porgy deep inside me. But when he calls, when he calls, I have to go. I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, no.